Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jocelyne Moussa Opondé.
Onze morts à la suite d'un affrontement hier entre deux groupes armés au village Andissa et Matoro, c'est dans les territoires de Djougou, province de l'Ituri. Les chefs d'établissement qui feront payer les frais de suivi seront sévèrement punis dans les Kwilu. Est également interdit l'organisation des maquis pour préparer les examens d'état à venir. Notre invité, c'est Augustin Niaitunda, expert dans les questions de paix et sécurité. Il va s'exprimer sur les prochaines étapes du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation de PDDRCS. Bonjour à tous. Commençons en Ituri. Le bilan des affrontements de dimanche entre la milice Codeco et le groupe d'autodéfense Zaïr au village Andissa et Matoro dans les territoires de Djougou et des 11 morts et une dizaine de blessés selon des sources locales. Celles-ci ajoutent que des miliciens ont été capturés dans les deux camps. Ces affrontements ont encore entraîné le déplacement de la population dans ces localités minières. Isaac Raymond.
Les miliciens de la faction des Codeco dénommés Bon Temple et dédiés traversaient les villages d'Andissa pour se rendre vers Yedi. À leur passage, ils ont attaqué certains éléments du groupe d'autodéfense Zaïr, déclarent des sources de sécurité. Les combats entre les deux parties ont débuté dimanche à 5h du matin et ont duré toute la journée. Ils se sont étendus au village voisin de Matoro. Les bilans fait état d'au moins 9 morts côté Codeco et une dizaine de blessés contre des miliciens tués du côté de la milice Zaïr où on compte 4 blessés. Pour le moment, les localités minières d'Andissa et Matoro sont vidés de leurs habitants. Ces derniers déplorent l'absence des phares d'essai dans ces milices qui sont contrôlés et gérés par des groupes armés. Ce lundi matin, il n'y avait toujours pas d'intervention de l'armée. Mais les phares d'essai sont plutôt arrêtés. Dimanche soir, 3 assaillants de la milice Codeco à Nzebi, proche de Mungwalu. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les acteurs de la société civile du secteur de Bapéré dans le territoire de Lubero alertent sur la présence des groupes armés dans les sites miniers de Kasopo et Kamituga. Selon la société civile, cela occasionne les mouvements des populations qui craignent les exactions de ces miliciens. Elle appelle les autorités à accélérer le programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Grâce à Mzati pour les détails.
Depuis la semaine dernière, deux groupes de miliciens sont visibles dans les carrés miniers de Kasopo dans les groupements Bapakombe et Kamituga en groupement Bapaitumba. C'est du moins ce que rapportent les acteurs de la société civile dans la région. Avec leur présence, certains habitants ont commencé à vider la région craignant pour leur sécurité, nous a confié un acteur de la société civile locale. Notre source ajoute que cette situation impacte même négativement la production agricole, puisque les agriculteurs qui fréquentent cette zone ont du mal à s'y rendre. La société civile dit craindre aussi des éventuels affrontements entre ces groupes armés qui se disputent de plus en plus les sites miniers. C'est pourquoi elle appelle les autorités à accélérer les processus du PDDRCS. Contacté, l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, dit avoir pris les dispositions nécessaires pour faire face à cette situation et invite ses miliciens à adhérer à ces programmes, sinon ils seront traqués par les FRDC. Pour sa part, le coordonnateur intérimaire provincial du PDDRCS, Jacques Loukoho, affirme que tout est prêt, il ne reste que le décaissement des moyens pour rendre effectifs les 10 programmes. Boutembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Au sud Kivu, la société civile environnementale se dit fortement préoccupée par l'augmentation des crimes concernant les espèces menacées dans les aires protégées. Elle a dit ce lundi, après la saisie de 32 morceaux d'ivoire, presque une centaine de kilos donc, des défenses d'éléphants et l'arrestation de 4 suspects par les services de sécurité à Bukavu. C'était le 4 avril dernier après une opération conjointe PNC et ICCN. La société civile environnementale plaide pour l'ouverture d'un dossier judiciaire afin que les responsabilités soient établies. Josué Aruna, président de la société civile environnementale du Sud Kivu, est au micro de Cynthia Bachizi.
On s'est rendu compte que ces criminalités phoniques sont en train de prendre de l'ampleur, surtout au niveau du parc national de Kahuzi-Biega. Vous savez, la question de l'éléphant, on les a perdus ici dans la haute altitude. Aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a des traces dans la basse altitude et ça serait de ce côté-là où ce braconnage est en train de s'opérer, c'est-à-dire là, du côté de la province du Maniema et aussi dans certaines forêts communautaires. Et la contrebande s'installe au niveau de la ville de Bukavu qui essaie un peu d'interagir avec d'autres réseaux qui se trouvent dans la sous-région. La société civile environnementale dans son ensemble est en train de demander que le procureur de la République, auquel le dossier est entre ses mains, puisse fixer rapidement, c'est-à-dire l'affaire devant le juge, pour que les responsabilités soient bien fixées. Parce qu'on a été saisi. Il y avait les quatre personnes, mais une personne serait déjà en liberté provisoire. Nous voulons suivre de près si ce dossier sera traité de toute transparence et nous mettons en garde toute forme d'influence.
Et puis, au Nord Kivu, 44 condamnations pour crimes environnementaux ont été prononcées par la justice militaire de Goma entre janvier et mars 2022. Ces verdicts ont été rendus dans des procès organisés en audience foraine et ordinaire à Goma et dans les territoires de Masisi sur initiative de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Bernard Danyangi pour les détails.
Dans un point de presse samedi à Goma, l'avocat conseiller du parc national de Virunga a indiqué que 14 condamnations ont été prononcées par le tribunal militaire de garnison de Goma en audience ordinaire entre janvier et février 2022, alors que 30 autres l'ont été à l'issue des audiences foraines de tribunal militaire de garnison et tribunal militaire de police de Goma dans les territoires de Rutshuru sur demande de l'ICCN. Parmi les condamnés figurent 5 membres de groupes armés accusés d'attaques sur les éco-gardes, indique Maître Lucien Mugantoari.
Les infractions sont notamment la participation à un mouvement insurrectionnel parce que beaucoup de groupes armés sont dans le parc. Il y a eu des peines de 5 mois, il y a eu des peines de 7 mois, de 24 mois. Donc l'idée ce n'est pas que les gens aillent mourir en prison, l'idée c'est que les gens comprennent que ce n'est pas un acte banal qui est de violer la loi sur la conservation de la nature.
Selon l'ICCN, au moins 800 personnes ont été arrêtées l'année dernière pour crimes d'envahissement du parc national de Virunga, du braconnage et trafic illégal des trophées des animaux protégés ou attaques sur les éco-gardes, entre autres. Si certains ont été relâchés par la suite après sensibilisation, 400 au moins seraient encore en détention dans différentes prisons de la province. Goma, Bernard Dignangui, Radio Okapi.
Devoir de transparence sur le projet Fachi City en vue de la relocalisation du camp Kokolo. Le caucus des députés nationaux de Kinshasa ont échangé le week-end avec le ministre de l'aménagement du territoire. Au cours de cette séance de travail, le ministre d'État Guy Luando a sollicité l'accompagnement, mieux le soutien des élus pour la matérialisation de ce projet qui vise à doter le pays des infrastructures modernes et d'améliorer les conditions de vie des hommes en uniforme et de leur famille. Pour casser la désinformation qui tente de s'installer autour de ce projet, le député Daniel Mbao plaide pour l'implication de toute la population par une information fiable dans la réalisation du projet Fachi City. Daniel Mbao est au micro de Michel Kifindangoy.
Le caucus des élus de Kinshasa a eu à tenir avec son excellence monsieur le ministre de l'aménagement du territoire une séance de travail autour de la mise en œuvre du projet de la construction d'une nouvelle cité dénommée Fachi City. Et ce projet dans le fond va consister dans le mécanisme d'exécution à la relocalisation du camp Kokolo, ce qui est une ambition forte que les députés saluent mais que les députés souhaiteraient à tout point de vue, dans le cadre des réponses sociales à apporter à la population, d'accompagner. Nous avons échangé autour des questions juridiques, des désaffectations liées à la relocalisation, aux indemnisations préalables, parce qu'il s'agira finalement, en fin de compte, d'une mesure collective d'expropriation pour certaines qui détiennent des titres pour cause d'utilité publique.
Les billets de stage ainsi que les canevas de stage vont se donner gratuitement aux élèves finalistes du secondaire pour l'exercice 2021-2022. Il n'y aura pas non plus des frais de suivi. Il est également interdit d'organiser le maquis pour préparer les épreuves de l'examen d'État. Ces instructions sont du directeur provincial du Kwilu 1, annoncé dans une interview accordée à la presse le week-end. Denis Changa Kapinga demande aussi aux filles finalistes d'être plus sobres lors de la passation de ces épreuves. Pas des mèches, ni trop des fantaisies. Les chefs d'établissement récalcitrants qui feront payer les frais interdits seront sévèrement punis, précise-t-il. Le prophète du Kwilu 1, Denis Changa Kapinga, est au micro d'Irène Boma.
Nous avons, nous à notre niveau, pris une instruction pour dire que cette année, il n'y a pas de maquis. Il n'y a pas de maquis, on ne peut pas aussi payer l'argent des canevas, on ne peut pas payer la lettre de stage. Donc tout est gratuit, pas question. Les billets de stage et les canevas se donnent gratuitement. Et nous avions demandé aussi aux élèves, pour les filles, cette année, il n'y aura pas de mèches, il n'y aura pas de perruques. Il n'y aura pas des uniformes avec fantaisie. Il n'y a pas de l'argent, ce qu'ils appellent le cinéma, l'argent des suivis. Il n'y en a pas. Donc, quand on attrape un chef d'établissement qui demande cet argent, en tout cas, sa place n'est pas dans une école. Parce que le professeur Tony Mwaba, notre ministre des tutelles, il a donné des instructions pour que nous puissions lutter contre les anti-valeurs. Nous avions demandé que les élèves qui ont déjà versé l'argent des canevas, l'argent des billets de stage, cet argent-là sera reversé comme à compte sur le frais d'examen d'État. Et je pense que dans les heures qui suivent, nous allons prendre des décisions pour pouvoir suspendre tous ces enseignants, tous ces préfets qui ont déjà perçu cet argent. Pour qu'il puisse servir d'exemple.
Dans la province du Maniema, le secteur des BIA s'engage à accompagner les femmes de ces secteurs dans leurs différents domaines d'intervention. Le chef de ces secteurs l'a dit à l'issue de l'atelier sur l'autonomisation de la femme rurale organisé par le secteur en faveur de près de 1000 femmes à Binumbi, dans le territoire de Pangui. Ces assises de deux jours se sont clôturées vendredi par l'inauguration du centre pilote d'alphabétisation des femmes. Les femmes des Binumbi ont saisi l'opportunité pour formuler plusieurs recommandations, dont la réouverture des routes des dessertes agricoles pour leur permettre d'écouler leurs produits des champs vers le centre de consommation. On écoute le chef de secteur des BIA, Jules Suédi, dans ses propos recueillis par Florence Kiza.
Le secteur des BIA s'engage à appuyer moralement, matériellement et financièrement et accompagner les mamans du secteur dans les divers domaines d'intervention. Quant à leur autonomisation, le secteur compte perpétuer les campagnes d'éducation civique déjà entamées lors de nos plusieurs tournées d'inspection territoriale et les encourager davantage dans la mise en pratique des conseils leur prodigués pour le maintien de la stabilité de leur foyer afin qu'elles deviennent des leaderships féminins valables. Le secteur des BIA s'engage en outre d'appuyer et d'accompagner les mamans du secteur des BIA dans l'organisation des dossiers des différentes associations locales de développement. Il en est de même dans la création ou l'organisation des coopératives agricoles. En somme, les moyens de bord du secteur des BIA étant limités, ils sollicitent l'appui et l'accompagnement des hommes de bonne volonté, ONGD nationales et internationales et au gouvernement provincial et centrale dans les circonstances qui nécessitent leur assistance.
Actualité internationale. L'extrême droite à nouveau au second tour de la présidentielle ce matin en France avec 27,6% pour Emmanuel Macron, 23,4% pour Marine Le Pen, selon des résultats quasi complets. Le président sortant et la candidate du Rassemblement national vont se retrouver encore le 24 avril prochain. Au Cameroun, il faudra à l'avenir mettre la main à la poche pour passer un test PCR détectant le Covid-19 et pas qu'un peu. Gratuit jusqu'ici, les Camerounais devront désormais débourser pas moins de 45 euros pour ce test de dépistage. La décision a été actée le 4 avril dernier par le gouvernement. La gratuité de ce test coûtait très cher dans le budget de l'État alors que les caisses sont vides.
L'invité.
Le programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation, PDD-RCS, entre dans sa phase active. Sa stratégie nationale a été adoptée à Kinshasa. Mais quelles sont les prochaines étapes au niveau des provinces? Pour en parler, nous recevons Augustin Tani Tunda, expert dans les questions de paix et sécurité. Il a participé à toutes les étapes de l'élaboration de la stratégie du PDD-RCS. Ils ont traité avec Cynthia Bachizi.
Augustin Taitunda, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Ça y est, le programme PDD-RCS est entré dans sa phase active. À quoi faut-il maintenant s'attendre dans les provinces et particulièrement dans notre province ici du Sud Kivu?
Au niveau des provinces, il y a deux principales activités qui doivent suivre concomitamment. Très prochainement ici, il y aura déjà mise en place d'un cadre de concertation, de paix et d'appui au programme. Et ce cadre-là aura à son sein le gouvernement provincial comme modérateur, la coordination provinciale du programme comme comité exécutif et secrétariat plutôt exécutif, et la société civile comme rapporteur, ainsi que d'autres organes, la conseillerie. Il y aura une deuxième activité très importante, c'est ce que nous avions appelé le plan opérationnel de chaque province conformément aux réalités intrinsèques de la province. C'est grâce à ce plan opérationnel qui vient aussi alors en appui à la stratégie nationale, et ce plan opérationnel va permettre alors aux différents partenaires de cibler l'axe. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il exécute, qu'est-ce qu'il fait exécuter. Et ainsi, après ce plan opérationnel-là, il y aura d'autres activités subsidiaires. Donc, et je vous ai déjà dit qu'il y a des personnes qui déjà travaillent de comprendre la chaîne de ravitaillement des groupes armés, le financement des groupes armés. Puisque si ces défis, on ne les relève pas, nous allons tourner en rond. On va échouer comme les anciens programmes. Beaucoup de programmes, beaucoup de techniciens se limitent à relever les défis liés au chômage, liés, c'est pas au conflit éleveur et agriculteur comme cause sous-jacente. Actuellement, c'est l'enjeu économique. Nous connaissons. On ne va pas le dire aujourd'hui, les groupes armés, qui notre motivation de se battre contre aucun ennemi, mais ils se concentrent autour des sites miniers pour exploiter, ils deviennent comme une main d'œuvre économique pour exploiter illégalement, illicitement les minerais, et viennent, ils achètent, les motivent, et ils rentrent avec les minerais. Et tout ça, ce sont des défis, mais comme on les connaît, on pense qu'on va les relever facilement.
En parlant de pragmatisme, que prévoit ce programme-là? Aujourd'hui, vous êtes face à des gens qui se disent prêts à déposer les armes. Quelle est la suite leur réservée?
Oui, cette crainte est relevée souvent, mais je pense qu'il faut alors tenir compte du caractère innovant du programme. C'est pourquoi il y a les CS à la fin. Ce programme est exécuté pour la communauté, par la communauté, au compte de la communauté.
Mais ça veut dire quoi concrètement?
C'est l'aspect communautaire. L'ex-combattant, non seulement il est réinséré lui-même, mais le programme tient compte de sa propre famille, sa propre communauté, tous ses dépendants, afin que lorsqu'il est réinséré, il se sente encore accueilli, intégré. Donc, alors quelqu'un fait un mois dans le site de transition, vous lui donnez un vélo, ce n'est même pas un besoin de sa communauté, ce n'est même pas son propre besoin, et il va le vélo à $50 et il retourne dans la brousse. Mais en tout cas, le nouveau programme, dans son aspect communautaire, dans ses aspects innovants, est-ce que la communauté se retrouve elle-même? Parce qu'avec les affres de guerre, plusieurs personnes, non seulement les ex-combattants qui ont fui, mais les communautés ont perdu beaucoup de biens. Les communautés sont frustrées. Les communautés se sentent dans une situation de manque d'accueil, donc de rejet social.
Justement,
des ex-combattants. Mais comment on concilie ces rejets communautaires et l'ex-combattant? Et donc on va le rendre utile, l'ex-combattant, en le rendant une main d'œuvre utile pour sa communauté.
Comment assurer alors la réparation des victimes?
Ce n'est pas un programme de cahier de charges. Non, ça c'est refusé. C'est un programme qui tient compte aussi, dans ses piliers, il y a la justice transitionnelle. Et c'est l'un des mécanismes de réparation des victimes. C'est un programme qui donne de la chance à tout le monde de rendre les armes. Nous tenons compte de l'aspect volontaire de l'ex-combattant pour déposer les armes. Et donc l'État donne cette chance prééminente de demander aux tous les combattants, étrangers comme nationaux, de déposer les armes. Volontairement. S'ils ne les ont pas déposés, ils vont subir la rigueur de l'armée, puisqu'on ne va pas tolérer. Et tous ceux qui seront capturés, ils ne sont pas éligibles dans les programmes PDDRCS.
Je vous remercie.
Merci infiniment.
Augustin Taitunda, expert dans les questions de paix et sécurité, répondait aux questions de Cynthia Bachizi Nabizana. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.